Studio Tamani, voici les informations en français.
18h dans ce studio, même heure à Menakaï dans la région de Kidal. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. La région de Menaka est en manque d'enseignants depuis 2012. Pour pallier à la situation, les autorités ont pris des décisions. 52 morts et près d'une trentaine de blessés, c'est le bilan dressé par la chefferie de Talato à Kenyeba, plus d'une semaine après l'effondrement de la mine d'or de Bilalikoto. Dans la rubrique Zoom sur, on parle aujourd'hui des vendeurs ambulants en circulation. À la présentation, je suis Adama Amadou Haïdara. Mamadou Ouattara assure la mise en onde. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, dans la région de Menaka, plusieurs enseignants sont absents depuis la crise de 2012. La plupart des écoles ouvertes fonctionnent avec des volontaires. À l'occasion de plusieurs rencontres déjà, le problème a été évoqué et depuis quelques jours, des décisions sont en gestation pour essayer de trouver une solution. Plus de détails avec Sita Sidibé.
Parmi les décisions en gestation figure le retour imminent des enseignants de Menaka. Pour ce faire, ils ont jusqu'au 3 mars prochain pour regagner leur poste. Abou Zeidi Touré est membre de la synergie des syndicats des enseignants à Menaka. Pour lui, il est injuste de demander seulement aux enseignants de retourner à leur poste alors que plusieurs autres services publics ne sont pas installés dans la région à cause de l'insécurité.
Les enseignants ne sont pas les seuls fonctionnaires. Particulièrement, il y a certains services, leur présence peut beaucoup aider à ce que les enseignants reviennent. Particulièrement les services financiers, les trésors, les budgets. Nous, on a même demandé à un moment à ce que ces services-là se fassent représenter. Mais jusque-là, les enseignants continuent de souffrir de leur absence.
L'absence des enseignants dans la région de Menaka est loin d'être une volonté d'abandonner. Pour Ousmane Almoudou, porte-parole du syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016, il faut réunir toutes les conditions idoines afin de faciliter leur retour dans la sérénité.
Les gens ne peuvent pas aller comme ça. Un gouverneur ne peut pas s'asseoir et faire un communiqué et demander aux enseignants de retourner alors qu'aucune condition n'est réunie. L'absence des enseignants est justifiée par l'insécurité. Et avant les événements de 2012, les enseignants étaient à Menaka. Voilà, c'est suite à ces événements que, effectivement, tous les fonctionnaires ont abandonné le Nord. Mais suite à l'offensive que l'armée a lancée pour la récupération des régions du Nord après le départ de la MINUSMA, des enseignants qui étaient venus à Bamako pour les vacances ont vu la route bloquée.
À noter que cette annonce des autorités scolaires de Menaka fait suite à une correspondance adressée au maire par l'Académie le 10 février dernier. La lettre parlait des dispositions à prendre par rapport à l'absentéisme des enseignants à Menaka.
Le retour des enseignants dans la région de Kidal n'est toujours pas effectif. Cependant, dans les localités où les représentants de l'État sont présents, les écoles fonctionnent normalement. Par ailleurs, les enseignants sur place dénoncent l'inaccessibilité de leur salaire dû au non-fonctionnement des banques dans la région et demandent aux autorités de prendre des dispositions par rapport au paiement de leur salaire. Abdoul Salim Meïga est le secrétaire général de la Fédération nationale de l'éducation, des sports, des arts et de la recherche. Il est au micro de Sita Sidibé.
Et aujourd'hui, très sincèrement, on peut dire que les enseignants sont retournés dans la région de Kidal, même si tous les enseignants ne sont pas retournés. À un moment donné, on a eu en tout cas un compromis avec l'État que les enseignants vont retourner de façon progressive. Et je crois que c'est ça qui est en train d'être continué. Où nous osons espérer que dans les jours à venir, que le retour sera effectif quoi, en un mot. Mais ce qu'il faut signaler, le nombre d'enseignants présents donc on fait l'affaire aujourd'hui, c'est-à-dire en cette année 2024-2025. C'est aujourd'hui quand on essaie de regarder à Takalut et à Anefif, à Agelhok, à Tessalit aussi, voilà, les enseignants sont là-bas.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Une réunion ministérielle regroupant les piliers défense et sécurité, diplomatie et développement de la Confédération AES s'est tenue à Bamako les 22 et 23 février 2025. À l'issue de cette rencontre de deux jours, les délégations du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont eu une convergence de vues sur les sujets relatifs à ces différents domaines. Le point à suivre ici avec Oumar Ouigalou.
Les prochaines échéances entre les trois pays du Sahel et la CEDEAO figurent en bonne place dans le communiqué final, lui, à l'issue de cette réunion ministérielle. Ainsi, la Confédération de l'AES compte engager des discussions dans un esprit constructif avec l'organisation sous-régionale. Ces discussions vont porter sur la rupture définitive entre l'espace confédéral et la CEDEAO tout en préservant l'intérêt supérieur de la population. Les ministres de l'AES souhaitent également renforcer l'intégration sous-régionale entre la population de l'AES et celle de la CEDEAO. Autre conclusion de cette réunion, c'est la poursuite de la lutte contre le terrorisme. Les trois pays s'engagent à continuer les opérations militaires pour mettre fin à l'insécurité. Les ministres se sont félicités des récents succès des forces de défense et de sécurité des trois pays. Les délégations ministérielles ont aussi évoqué des mesures pour renforcer les bases des économies des pays de la Confédération et parvenir au développement des États. Il faut noter que les premiers jours des travaux des ministres, le drapeau de la Confédération des États du Sahel a été officiellement présenté.
Plus d'une semaine après l'effondrement de la mine d'or de Bilalikoto, le bilan fait état de 52 morts et près d'une trentaine de blessés. L'information est donnée par Kankoumadi Kanouté, petit frère du chef du village de Talato, dans le cercle de Kenyeba. Il invite les autorités à créer des activités génératrices de revenus pour les femmes de la zone afin de prévenir de tels incidents. Il est joint ici par Juliette Koulibaly.
52 personnes sont mortes, dont des femmes enceintes. Parmi les victimes, seulement 2 sont hommes. Tout le reste sont des femmes. 22 personnes de Talato sont blessées. Il n'y a plus personne sur place et les travaux ont été arrêtés. Je demande aux autorités d'être vigilantes. Ces femmes, c'est vrai qu'elles veulent subvenir à leurs besoins, mais la vie avant tout. Il n'y a pas longtemps, de l'or a été vendu ici pour un montant allant jusqu'à 1 milliard, encaissé par la mairie. Si les autorités peuvent multiplier les activités génératrices de revenus pour ces femmes, ça serait très utile. Si rien n'est fait, la situation risque de devenir catastrophique.
On reste toujours à l'intérieur du pays. Une convention de partenariat a été signée ce vendredi 21 février 2025 à Sikasso entre la mairie de la commune urbaine de Sikasso et celle de Banfora au Burkina Faso. La présente convention a pour objectif de promouvoir les relations d'amitié, d'échange et de solidarité entre les populations des communes de Banfora et de Sikasso. Les domaines de coopération entre les deux communes portent sur les échanges techniques, sportifs, artisanaux, culturelle et touristique. Et toujours à l'intérieur du pays, une mission nationale de supervision de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ était à Bafoulabé vendredi dernier. Il s'agissait pour la délégation d'évaluer l'état d'avancement de la révision des listes électorales. Sur les 13 communes du cercle, seules 2 ont entrepris des actions depuis la prorogation de la date limite au 28 février 2025. Un obstacle majeur freine le processus d'après les visiteurs. Toutes les tablettes destinées à l'enregistrement sont en panne. À cela s'ajoute un manque d'implication des partis politiques, précise la commission.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Vous entendez parler de plus en plus de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ses avantages et inconvénients? La réponse avec Fatoumata Koudjo.
L'intelligence artificielle est l'ensemble des procédés techniques et scientifiques qui sont capables de raisonner, d'agir comme les personnes humaines. Elles peuvent même souvent devancer l'intelligence humaine. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, elle s'impose dans plusieurs domaines, notamment dans l'éducation et les nouvelles technologies. Les systèmes d'IA deviennent de plus en plus aptes à effectuer des tâches spécifiques, de la reconnaissance d'images à la traduction des langues et plus encore. Elles peuvent générer des photos, audio ou encore des vidéos qui sont vraiment réels. Il faut vraiment beaucoup de vigilance pour ne pas tromper devant l'œuvre de l'IA. L'intelligence artificielle est utilisée dans plusieurs entreprises pour faciliter la communication interprofessionnelle. Elle améliore aussi la qualité du service. En plus de cela, elle offre des opportunités d'emploi et de créativité, surtout dans la robotique. Mais attention, comme toute science, elle a aussi des inconvénients. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, l'utilisation de l'IA peut provoquer la paresse intellectuelle chez les apprenants. Ainsi, ils feront moins d'efforts pour chercher la connaissance. De nos jours aussi, beaucoup de personnes guidées par la mauvaise foi divulguent des informations en se servant de l'intelligence artificielle.
Dans notre chronique Zoom Sur, on parle des vendeurs ambulants en circulation. Leur détermination suscite souvent à la colère des usagers. Arkia Touré.
Chaque matin, Hama charge ses marchandises, direction les grandes artères de Bamako. Une fois sur place, c'est la course aux clients. Il esquive les voitures, les motos et bien d'autres pour présenter ses articles. Regarde mamie, Hama lance ici, arrêté au vide du véhicule d'un père de famille. Ce dernier, qui n'a peut-être pas un rond dans sa poche, reste concentré sur sa conduite et ne répond pas. Malgré ce dédain, notre revendeur revient à la charge. Hé papa, cette jolie poupée ira bien à votre princesse. Accablé, il chasse Hama en colère. Monsieur, je ne vais rien acheter. Il abandonne et se dirige vers un motocycliste avec ses articles. C'est un ainsi que Hama passe toutes ses journées. Un jour, au moment où il s'apprêtait à encaisser son argent, des jeunes motards l'ont renversé. Il s'est retrouvé avec le pied cassé. Sachez ceci, vouloir gagner sa vie est bien, mais il faut prendre des précautions pour pouvoir profiter de ses gains.
Merci Arkia Touré, ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi, mais bien avant, le grand dialogue de ce soir est une rediffusion. Le thème est « Tombouctou garde encore son hospitalité légendaire » et c'est une présentation de Imirana Kilumeiga. N'hésitez pas à appeler sur le service Kunafoni 37 321 pour réécouter gratuitement ce journal et le magazine qui va suivre dans un instant. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Le Bogolan, vedette des tissus locaux de tous les temps, c'est le thème de notre magazine du jour et c'est une présentation de Cheikh Amadou Diarra.
Le Bogolan était en vedette lors du festival Ogobanya qui a récemment pris fin à Bamako. Un rendez-vous pour l'artisanat malien. Antaba Dara, jeune tisserand de Badjangara, avait aménagé son atelier de tissage au festival. Il nous donne la recette pour la confection du Bogolan.
Il y a Nyarga, il y a certaines filles, nous on appelle en Dogon Gala. Donc il y a ça, il y a raisin sauvage, et il y a balanza, il y a des arbres qu'on appelle bagala aussi. Maintenant c'est les arbres qu'on utilise à faire des bogolans. Il faut bouillir d'abord. Chaque arbre a son couleur.
Les tissus bogolans comportent une autre particularité. Les images que l'on imprime sur le bogolan ont aussi une place importante dans le processus, comme l'indique Djibril Toulema, concepteur et vendeur de bogolans.
C'est de notre tisserand fait là, en blanc. Donc c'est comme ça, on prend aussi, on fait les dessins sur ça. On fait des dessins sur place, on pose sur le tissu, et puis on prend le bogolan, on fait avec. On travaille avec ça aussi.
Des contenus à préserver en faveur de notre patrimoine culturel. L'année 2025, déclarée comme celle de la culture par décret présidentiel, le ministre de la Culture travaille à faire du Bogolan une marque unique fabriquée au Mali, selon Abdoulaye Djombana, directeur du Palais de la Culture.
Les artisans, en collaboration avec le ministère en charge de l'artisanat, sont en train de labelliser le Bogolan. Ils sont en train de voir comment mettre ça dans le patrimoine national et international.
Le textile Bogolan gagne en notoriété grâce à la commercialisation de ses tissus locaux. Mais des vendeurs rencontrés indiquent faire face à des difficultés, même si certains arrivent à s'adapter à l'évolution des nouvelles technologies de l'information.
Les pains tissés, 2 mètres, ça coûte 12 500. Si tu regardes les travaux là, c'est pas cher quoi.
Chez nous, les clients affluent. La plupart de nos marchés sont sur les réseaux sociaux. Des commandes à lire.
Généralement, ce sont les Occidentaux qui s'intéressent plus à nos produits.
Le Bogolan est utilisé dans la confection de multiples accessoires et chaque consommateur aime le Bogolan à sa manière.
Je me suis donné la vocation de promouvoir le savoir-faire malien et à la date d'aujourd'hui, 90% de mes robes sont en tissu, soit en Bogolan, soit en indigo.
C'est des produits naturels, il n'y a pas de produits chimiques là-dedans et tu peux porter n'importe où, n'importe quand.
Je l'utilise plus dans les décorations parce que c'est attirant.
Vous-même, vous voyez comment c'est agréable à regarder.
L'utilisation du Bogolan remonte au temps de nos ancêtres. 3000 ans avant Jésus-Christ, affirment les acteurs culturels. Entre usage mythique et préventif, au-delà d'être la principale tenue des chasseurs d'onzo, le Bogolan joue un rôle important dans la médecine traditionnelle. Docteur Boubou Sango, adepte du Bogolan.
Nous prenons la circoncision. Donc le bandage qui se fait, c'est à base de cotonnade et puis de plantes. Si nous voyons un milieu dogon par rapport à la gestion de l'hygiène des menstrues, on voyait que les femmes dogon étaient isolées et les pagnes qu'elles utilisaient, c'était beaucoup plus des pagnes avec des plantes qui avaient pour rôle d'absorber l'odeur.
Le borlan a transcendé les frontières. Quand le célèbre couturier Chris Seydou l'a intégré dans ses créations vers les années 80. Aujourd'hui encore, il contribue à mettre en valeur le savoir-faire des artisans locaux.
Bokolanjama e fini mi dan na lo lo mokadibe.